Bonjour à chacun. J'ai apprécié la lecture qui a introduit la Sainte-Cène ce matin parce qu'elle était tout à fait appropriée par rapport à ce qui va être partagé ce matin. Donc Dieu parle, il a commencé à parler et il va continuer à le faire. Amen. Le titre de la méditation que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est « Ce que j'ai contre toi ». Ah, ça commence bien. Dit comme ça, lu comme ça, sèchement, moi ça me place un peu sur la défensive. Je me sens un petit peu agressé quand même. Hein? Ce que j'ai contre toi. Parce que finalement, ce toi-là, est-ce que ça ne serait peut-être pas moi, hein? Alors on pressent confusément que... Il va y avoir des reproches à venir. Alors, on rentre un peu le coup. Mais quand même, on attend la suite avec une certaine perplexité quand même, parce que, si je réfléchis bien, on peut certes avoir affaire à une sorte de reproche-jugement, ce que j'ai contre toi, et il n'y a pas d'appel possible. Ou alors, cela peut être un reproche salutaire qui permet, s'il est reçu, évidemment, de recadrer un comportement jugé inadapté. Un peu comme l'effet de la grâce. Même si, a priori, lorsque on lit cette phrase, telle qu'elle est lue comme ça, on ne sait pas, a priori, on ne sait pas finalement à qui elle s'adresse vraiment, à quoi elle fait référence, ni surtout qui en est l'auteur, comme ça. Et ça, c'est pourtant une information qui est déterminante de connaître l'auteur, parce que ça va permettre d'évaluer la crédibilité, voire l'autorité des arguments qui vont être avancés, qui ne manqueront pas de suivre. Mais évidemment, le titre de ce message, « Les familiers de la parole de Dieu », ont reconnu son origine, n'est-ce pas? Ils ont reconnu que c'est extrait du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier des 66 livres qui composent la Bible. Et c'est donc dans ce livre-là qu'on va pouvoir trouver, ce matin, les réponses qui nous intéressent par rapport à cette interpellation un peu brutale. Ce que j'ai contre toi. Apocalypse. C'est un nom qui sonne un peu bizarrement à nos oreilles. Apocalypse. Pas très courant, ce mot. Mais tout simplement parce qu'en fait, il est resté très proche de la racine grecque. Apocalypsis, dont il est issu. C'est directement tiré de la racine grecque. C'est quasiment le même mot. Hein. Et en fait, ce mot, il a le sens de dévoilement. De révélation, hein, le sens de lever le voile. Voilà ce que signifie le mot apocalypse. Mot que vous conviendrez ne laisse pas du tout soupçonner hein, cette explication. Apocalypse en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc en fait, le titre de ce livre, que l'on appelle le plus couramment Apocalypse, eh bien, il aurait pu être la révélation, le dévoilement. C'est ce qu'on aurait pu écrire et c'est ce que certaines versions de la Bible ont choisi de faire. C'est plutôt rare, mais il y en a quelques-unes qui appellent ce livre « La révélation de Jésus-Christ ». Hein ? Et c'est tout à fait légitime. Et cela s'est confirmé par le premier mot du premier verset du premier chapitre de ce livre, donc Apocalypse 1, verset 1, qui commence ainsi. Révélation de Jésus-Christ, et non pas Apocalypse de Jésus-Christ, mais ça pourrait être écrit. Hein. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse, pour le profane, pour les personnes que l'on peut rencontrer autour de nous, c'est un mot qui a à voir avec des événements cataclysmiques. Quand les gens prononcent le terme apocalypse, ça recouvre des pluies diluviennes, des inondations majeures, des tsunamis terrifiants, des tremblements de terre dévastateurs. Quel apocalypse ! Des incendies géants, la pollution mortifère, auxquels on peut rajouter la déroute des systèmes financiers, l'effondrement des États, les crises sociétales. C'est l'apocalypse, disent les gens dans la rue. C'est l'apocalypse, avec en perspective la catastrophe finale, la catastrophe finale, c'est-à-dire la disparition de l'humanité, la fin du monde. Ça, c'est l'apocalypse au sens commun des gens. Hein ? Donc, une vision angoissante avec un avenir sans espérance. Et on rencontre de plus en plus de gens qui sont dans cette situation-là, sans espérance, des gens qui ont peur, hein, surtout depuis l'apparition de ce Covid. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ne savent pas comment ça va se terminer, qui craignent vraiment la suite. Par contre, le croyant qui a saisi que c'est la parole de Christ qui est transcrite par l'apôtre Jean, pour le croyant, l'Apocalypse, donc la révélation en fait, hein, la révélation, si elle soulève certes le voile sur des événements qui sont à venir dans le plan de Dieu pour les temps de la fin et qui ne sont pas forcément très réjouissants, apporte surtout, je dirais, de l'espérance à tous les croyants. Parce que ce livre de l'Apocalypse, cette révélation de Jésus-Christ, eh bien, elle proclame la victoire finale de Christ sur le mal, l'instauration de son royaume et la réalité de la vie éternelle avec lui. Hein, ce qui fait une grosse différence avec l'incroyant qui n'a pas d'espérance. Hein, pas d'espérance. Mais revenons à notre reproche. Ce que j'ai contre toi. C'est donc extrait de ce livre de l'Apocalypse et on a compris que c'est Jésus-Christ qui en est l'auteur du texte. L'apôtre Jean n'en étant que le rédacteur. L'apôtre Jean a été ravi en esprit, il a eu des visions hein, qui lui ont révélé un certain nombre de choses, mais c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de ces visions-là. C'est Jésus-Christ donc qui lui-même formule ce reproche, ce que j'ai contre toi. Alors là, ce n'est plus la même chose. Si c'est Jésus-Christ qui me dit ce que j'ai contre toi, c'est sérieux. Et je crois que ça vaut vraiment le coup de mobiliser ce matin notre attention pour prendre en compte ce qui va être dit par la suite, puisque c'est la parole de Dieu. Matthieu 7 au verset 24 nous dit à ce propos, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Alors on va lire maintenant le contexte de cette partie de verset, donc qui se situe dans le chapitre 2 d'Apocalypse, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. À qui s'adresse donc Jésus ce matin ? Premièrement, à l'église d'Éphèse. C'est la lettre à l'église d'Éphèse. Donc il y a une lettre qui va être écrite, qui est rédigée par Jean, par l'apôtre Jean, mais qui est totalement inspirée par le Seigneur. Éphèse, c'était une ancienne et une grande cité grecque, située en Asie mineure. Donc c'était une colonie grecque. Aujourd'hui, on dirait la Turquie. Les ruines d'Éphèse se trouvent en Turquie aujourd'hui. Et cette ville d'Éphèse, cette colonie grecque, elle était devenue, plus tard, la capitale de la province romaine d'Asie. Alors, ce n'est pas toute l'Asie, ce n'est pas tout le continent, c'était la province romaine, c'était quand même un peu limité. Et la population de cette ville a été estimée, grosso modo, ce n'est pas très précis, à 200 000 habitants. Donc, quelque chose d'assez imposant. Par son port sur la mer Égée, qui était une escale entre Rome et l'Orient, en fait, eh bien, c'était un centre commercial et maritime important. Mais c'était aussi le siège du grand temple d'Artémis, la Diane des Romains. Bien qu'apparemment, ce n'était pas tout à fait la même déesse, puisqu'elle avait été associée à Cybèle, qui était la déesse qui était là en Asie mineure avant l'arrivée de la colonie grecque. Donc il y avait un mélange. Mais le nom était le même. Artémis, déesse de la fertilité. Et ce temple, ce grand temple, il comptait au nombre de ce qu'on a appelé les sept merveilles du monde antique. Les sept merveilles du monde antique, le temple d'Artémis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme merveille? Le colosse de Rhodes. Les jardins suspendus de Babylone. Tu connais bien. Tout à fait. Le phare d'Alexandrie. La statue de Zeus à Olympie. La pyramide de Khéops. Le mausolée d'Halicarnasse. La seule des sept merveilles qui reste aujourd'hui, c'est la pyramide de Khéops. Et ces monuments, ces merveilles, elles étaient classifiées comme cela de par leur monumentalité. C'était des constructions monumentales avec des efforts d'architecture, de décoration exceptionnelles. C'est pour ça qu'on les a appelées les sept merveilles du monde antique. Fermons la parenthèse. Acte 19 au verset 35. Alors je vais le lire dans la version second 21. Cependant, le secrétaire de la ville, donc d'Éphèse, put calmer la foule. « Éphésien, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel ?» Ce verset, je l'ai choisi parce que la réputation de la ville d'Éphèse était liée à la pratique de toutes sortes d'activités occultes. Dans le monde antique, elle était renommée pour cela. Éphèse. La pratique de l'occultisme. Alors, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, il y avait des astrologues, il y avait des devins, etc. Enfin, c'était vraiment un rassemblement, un regroupement de personnes qui pratiquaient des œuvres des ténèbres. Et la richesse de la ville, hormis l'activité du port, c'était la visite du bâtiment, de ce bâtiment du temple, de ce bâtiment monumental, avec des dimensions extraordinaire pour l'époque, mais c'était surtout la vente de mini temples en argent qui procuraient évidemment une ressource financière importante aux habitants de la ville. C'est ce que nous rappelle Acte 19, verset 24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. On sait que plus tard ça provoquera des problèmes avec la prédication de Paul, qui va être obligé de partir. Éphèse, c'était donc un centre religieux important pour les païens. Alors pourquoi il y a cette lettre qui a été écrite à Éphèse? Eh bien, il y avait des chrétiens à Éphèse. Et dès le début de cette église, dès la fondation de cette église, eh bien, on a vu passer de nombreux responsables consacrés et zélés dans ces murs. On a pu noter qu'il y a eu Aquilas et Priscille, qui étaient vraiment à la fondation de l'Église. Paul les a laissés sur place, hein, lorsqu'il revenait de son, je crois, son deuxième voyage missionnaire, qu'il devait aller à Jérusalem pour régler un problème. Il a laissé Aquilas et Priscille à Éphèse. Il y a eu un certain Apollos qui a pu provoquer aussi quelques dissensions. Hein. Il y a eu aussi Timothée qui a été nommé pasteur en fait de cette église. Hein. Et puis on a eu évidemment les apôtres Paul et même Jean qui a, semble-t-il, terminé sa vie à Éphèse. Et cette église, eh bien, c'est une église vivante de la vie de l'Esprit. Acte 19, versets 5 à 7 nous dit « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. » La parole de Dieu, elle se répandait efficacement à Éphèse, et même aux alentours. C'est extraordinaire, même aux alentours. Hein. Paul prêchait à la synagogue, et pourtant, au bout de 3 mois, il a été empêché de le faire, il a été obligé de quitter la synagogue d'Éphèse, parce qu'il y avait des juifs incrédules, qui lui mettaient les bâtons dans les roues, et donc, Paul avait été obligé de partir de cette synagogue et il s'était replié sur un bâtiment privé, on va dire, qui était une école d'un certain d'un certain Tyrannus. Ça se ressemble un peu à la fin. Hein. Voilà. Et donc, il s'était retiré dans cette école pour continuer à enseigner. Acte 19, verset 9-10. Mais comme quelques-uns restés endurcis et incrédules. On parle des Juifs. Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, c'est-à-dire Juifs et non-Juifs, entendirent la parole du Seigneur. Toute la province romaine d'Asie a entendu parler de la parole du Seigneur. Extraordinaire depuis Éphèse. Alors, on suppose que, étant donné que c'était une école et que les auditeurs avaient liberté d'y venir, ce n'était pas comme dans la synagogue où il y avait des difficultés, où on filtrait peut-être les entrées. Là, c'était grand ouvert. Et donc, les auditeurs, eh bien, ils pouvaient venir de toute la région. Et lorsqu'ils rentraient de leur période de cours, eh bien, ils pouvaient eux-mêmes rapporter dans leur entourage ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient reçu. Ce qui fait que la parole de Dieu, elle s'est déployée comme ça dans toute la province d'Asie. Et il y avait des miracles extraordinaires. Et ça aussi, ça concourt à ce que la parole de Dieu se répande efficacement. Hein, des miracles extraordinaires. Alors, moi, en tant qu'ancien enseignant, je dirais, mais un miracle extraordinaire, tu as écrit une redondance. Parce qu'un miracle, il est forcément extraordinaire. Hein ? Mais si la parole de Dieu l'a écrit comme ça, c'est qu'il y a vraiment une raison particulière. Hein ? Parce que cette redondance, eh bien, elle met un accent encore plus exceptionnel sur les prodiges que les gens voyaient devant leurs yeux. Hein ? Et qui venaient confirmer la parole de Dieu. Acte 19, versets 11 à 12, nous dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » J'aime bien la formulation. Hein ? On aurait pu dire « Paul faisait des miracles extraordinaires. » Non, la parole de Dieu nous dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Humilité, hein ? Humilité. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Des choses extraordinaires. Il y a certaines personnes qui ont essayé, à notre époque, de reproduire des choses comme ça. Et on pouvait commander par Internet son mouchoir béni pour être guéri. Hein ? Ça n'a pas marché, en fait. Hein ? Ça n'a pas marché. Dieu confirmait sa parole. Hein ? Dieu confirmait sa parole. Je reviens en arrière, je crois que les miracles extraordinaires, c'est peut-être aussi pour indiquer que ce type-là, celui-là en tout cas de miracle, peut-être qu'il était pour cet instant-là. Et qu'il n'était pas forcément reproductible, peut-être, hein, mais ça peut être une supposition. Dieu confirmait sa parole. Marc 16, verset 17-18, dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » En mon nom, hein, encore une fois, au nom de Jésus, en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. On a vu également dans cette ville d'Éphèse, qui était donc une capitale de l'occultisme, hein, on pourrait l'appeler comme ça, une capitale de l'occultisme, on a vu des confessions et des abandons des pratiques occultes. Tous ceux qui avaient été touchés par la parole de Dieu, qui étaient donc des habitants d'Éphèse, avaient, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, eu commerce avec ces pratiques. Il y avait des sorciers, il y avait des astrologues, il y avait des devins, des voyants, etc. Certains ont été touchés par la parole de Dieu. Et ils ont été en mesure d'abandonner leurs pratiques. Acte 19, verset 18-19 nous dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser. » C'est la première étape toujours, hein, de venir confesser son péché. Et déclarer ce qu'il avait fait, ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On ne peut pas se dire chrétien et garder un lien quelconque avec l'occultisme. Tout simplement parce que Dieu interdit formellement de telles pratiques. Il n'y a pas possibilité, il n'y a pas de dérogation. C'est formellement interdit par Dieu. C'est ce que nous dit le Deutéronome 18, hein, verset 10-12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Eh bien, les nouveaux croyants, ils ont brûlé leurs livres de magie dans les rues. Amen. Et il y a dû avoir des pertes, hein, parce qu'on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. En fait, ces livres, ils étaient issus d'un commerce. Hein. Donc, on achetait ces livres avec des formules magiques, des incantations, etc. Ça coûtait cher. Et donc, le fait de les brûler, eh bien, ça représentait quelque chose. Hein, mais comme on dit, un sacrifice qui ne coûte rien ne sert à rien. Hein. Et il y avait aussi de l'amour dans cette église. De l'amour agapé, c'est-à-dire, agapé, le mot grec, hein, qui veut dire amour divin, amour inconditionnel, amour qui n'attend pas de retour. Hein, c'est l'amour agapé. Il était présent dans cette église. Hein, c'est le texte grec qui traduit donc amour par ce mot, agapé, dans ce cas-là. Éphésiens 1, versets 15 à 16, dans la version second 21. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Dans cette église, il y avait un amour débordant, un amour envers le Seigneur et un amour en direction de l'autre, en direction du prochain. Donc, une vie spirituelle dynamique, de la puissance, de l'influence, de la croissance et de l'amour. Mélangez tout cela, hein, faites cuire, et vous obtiendrez donc l'église d'Éphèse. Amen. Voici ce qui accompagnait les débuts de cette église. On est maintenant 35 ans plus tard, lorsque le livre de l'Apocalypse est écrit, lorsque la lettre à l'église d'Éphèse est rédigée. On est 35 ans plus tard. Et cette même église dont on vient, on peut dire, de faire l'éloge, hein, on peut le dire, eh bien, va recevoir une lettre bien particulière, dictée par le Seigneur lui-même. Et cette lettre, elle va aborder des situations, elle va aborder des événements spécifiques à cette église locale d'Éphèse, au 1er siècle de notre ère. Mais on aurait tort ce matin de se sentir à l'abri. Ça fait plus de 2000 ans, l'église d'Éphèse, d'abord Éphèse, ça n'existe même plus, c'est rasé, il reste quelques ruines par-ci, par-là. Le port d'Éphèse, il est à 7 km du bord de la côte, hein, ça a été ensablé, etc. Donc ça n'a plus rien à voir. Mais pourtant, et pourtant, je crois que cette lettre, comme toutes les autres lettres, et même comme toute la parole de Dieu, elle a une portée prophétique. Hein. Et s'il est certain que les circonstances qu'on évoque ce matin, elles étaient particulières à l'église d'Éphèse, il est certain aussi qu'au fil des âges, eh bien, dans toutes les générations depuis lors, eh bien, on a pu retrouver des situations comparables. Et donc, aujourd'hui, ce matin, eh bien, peut-être que certains d'entre nous vont se sentir concernés par ce qui va être dit par le Seigneur. Le texte nous dit que Jésus était au milieu des sept églises d'Asie mineure. En fait, il est dit qu'il était au milieu des sept chandeliers d'or. Mais la symbolique de l'Apocalypse, hein, nous dit que le chandelier, c'est l'Église, ou tout au moins l'éclairage, la lumière produite, hein, par l'Église. Et donc, on en conclut que Jésus, il était au milieu, notamment de l'Église d'Éphèse, comme il était au milieu de celle de Smyrne, de Pergame, etc., etc. Il les connaissait, ces églises, le Seigneur. Il les visitait. Et aujourd'hui, frères et sœurs, par son Saint-Esprit, eh bien Jésus, nous croyons qu'il est toujours présent dans ces églises, et notamment dans celle-ci. Amen. Alors parfois, ce n'est pas la vérité. Il peut y avoir des groupes où le Saint-Esprit se soit retiré. On ne va pas développer ça, mais on peut faire référence simplement à Samson dans le livre des Juges, hein, au chapitre 16, où il nous est dit, en parlant de Samson, « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Donc il continuait sa petite vie, mais il n'avait pas remarqué que le Saint-Esprit n'était plus en lui. Hein. Et ça peut arriver aussi dans certains groupes. Bon, on ferme la parenthèse. Le Seigneur est au milieu de son Église. Matthieu 18, verset 20, nous dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Hein, il ne faut pas aller chercher plus loin que ce qui est écrit. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, il est au milieu de nous. Matthieu 28, verset 20, nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors impossible de s'abriter, je crois, derrière le paravent du temps. Hein. Certes, nous lisons un texte qui a référence avec des événements qui se sont passés il y a 2000 ans, hein. Mais on ne peut pas dire « je ne me sens pas concerné ». On ne peut pas dire « ah, c'est intéressant d'un point de vue historique hein. ». Parce que ce matin, Christ, eh bien, il parle aussi à son assemblée d'Istres, ce matin. Il parle à l'assemblée, mais quand on dit « il parle à l'assemblée », l'assemblée, c'est un groupe qui est composé de personnes, qui est composé de pierres vivantes. Hein. Et comme dans tout groupe, eh bien, il faut que les composantes du groupe se sentent concernées. Hein ? Toujours pour faire référence à mon ancien métier, on sait très bien qu'une consigne collective, elle est rarement suivie par l'ensemble des membres du groupe. Il faut parfois s'approcher et lui dire « Oh Joël, tu l'ouvres ton livre, tu dors. Hein ?» Parce que Joël, il n'a pas capté que c'était pour lui. Ce qu'il a entendu. Hein ? Et bien là, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Le Seigneur nous parle personnellement, pas possibilité de dire « Oups, c'est l'Église, C'est le pasteur, c'est les anciens, c'est le frère un tel, la sœur une telle. Ils sont bien avancés spirituellement, ils savent de quoi il s'agit, moi. C'est pas mon problème. Non, c'est ton problème, mon frère et ma sœur, ce matin. Parce que le texte nous dit, Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et on ne lit pas des petites histoires, quoi. C'est la parole de Dieu. Hein ? Alors, quel est l'objet de cette lettre ? Pourquoi est-ce que cette lettre, elle est écrite à cette église qui nous semblait tout à fait exceptionnelle ? Hein ? Est-ce que 35 ans plus tard, les choses ont changé ? Est-ce que l'église s'est essoufflée ? Est-ce que la génération qui était là au départ, ben, elle n'y est plus, elle est décédée, ils sont partis ailleurs, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ce qu'on se dit en tout cas. Si le Seigneur est obligé d'écrire une lettre dans une église aussi extraordinaire, aussi merveilleuse, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que les frères et sœurs ils se sont fatigués de toute leur activité ? Est-ce qu'il y a eu des divisions qui ont fait qu'il y a eu des rancœurs, des amertumes ? Jésus qui marche au milieu de son peuple sait toute chose le concernant. Apocalypse 2, versets 2 et 3 nous dit, c'est Jésus qui parle. Et donc ce matin, il faut voir discerner ce qu'on va pouvoir recevoir pour nous-mêmes. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Ah ben ça commence plutôt bien pour une lettre de reproche. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Je connais ton travail, je connais ta persévérance. Le Seigneur, il commence par féliciter l'Église. Parce que dans cette Église, il voit les œuvres, il voit qu'il y a du travail. L'Église accomplit toujours de bonnes œuvres. Elle est fidèle au poste, elle poursuit son témoignage avec ténacité, sans se décourager. Alors on continue. Peut-être qu'on va trouver des arguments pour le reproche. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. Cette Église, on voit qu'elle n'a jamais toléré le péché au milieu d'elle. Et c'était sûrement pas facile avec le milieu ambiant sur la ville d'Éphèse, hein, avec les puissances, les autorités ténébreuses qui devaient être là, les pratiques idolâtres. Et immoral des habitants. On savait que dans le temple d'Artémis, il y a ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Donc ça drainait aussi un certain nombre de monde qui venait là pour avoir des pratiques sexuelles de fornication. Mais dans cette assemblée, au milieu de ça, il y avait une discipline. Il y avait une discipline. Et c'est ce qui distinguait l'Église du reste. Hein. L'Église, si elle se confond avec l'extérieur, il y a un problème. Hein ? Là, il y avait une discipline. Les problèmes avaient été réglés, avaient été traités. On n'avait pas toléré que le péché puisse se développer dans l'Église. Et puis, on voit aussi qu'il y avait du discernement contre les faux ministères. Hein ? Il y a de prétendus enseignants qui s'étaient introduits dans l'Église et ils essayaient, par des doctrines de leur propre conception, de détourner les frères et sœurs de la pure doctrine, de la doctrine saine. Mais ces gens-là, ils avaient été confrontés et confondus. Amen. Et il est important de s'assurer, effectivement, de la conformité de l'enseignement qu'on apporte dans une assemblée. Parce que l'objectif aussi, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, c'est d'arriver à vivre une vie sanctifiée. Hein, c'est l'objectif de chacun. De se sanctifier chaque jour davantage. Et si la parole est biaisée, eh bien, on va rater ce but. Hein ? Et puis, il est dit aussi que, comme le Seigneur, alors le Seigneur met ça en exergue, elle a de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Alors, les Nicolaïtes, c'était un groupe qui était là et qui voulait infiltrer l'Église. Et c'est ce groupe, un peu, je ne sais pas si on peut dire sectaire, mais enfin quelque chose dans ce genre-là, ils avaient une fausse doctrine qui était issue du paganisme et de la pensée grecque. Et ce mélange-là, eh bien, faisait que pour eux, la matière quelle qu'elle soit, la matière, était mauvaise en soi. Et seul l'esprit était bon et avait droit de citer. Ce qui justifiait que donc, il fallait s'astreindre à un ascétisme strict pour brider, pour discipliner les désirs du corps. Hein ? Mais la Bible dit, Jean 1, verset 14, « La parole s'est faite chair. » Et pour eux, les Nicolaïtes, ce n'était pas possible que Jésus soit Dieu. S'il était homme, il n'était pas Dieu. S'il était matière, il ne pouvait pas être esprit. Donc on voit le problème doctrinal. Hein ? Et la parole nous confirme, la parole s'est faite chair, justement. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus, nous, dans nos assemblées, on le proclame, Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Et donc pour ces Nicolaïtes, au final, puisque ce corps en soi était mauvais, qu'il n'y avait rien de bon dans la chair, en attendant de l'avoir jugulé, alors c'était par des pratiques initiatiques qui étaient réservées à une minorité, c'était un peu, oui, un peu sectaire, hein. Eh bien, on estimait qu'on pouvait se livrer sans problème au péché sexuel, parce que de toute façon, la chair était mauvaise, et puis donc, puisque c'était mauvais, c'était comme ça, et que donc, on pouvait se livrer au péché sexuel. Hein. Voilà, et c'était donc cette doctrine-là que les Nicolaïtes voulaient faire rentrer dans l'Église, hein, permettre l'apparition de mœurs très libres, on va dire, hein, pour en rester là. On continue notre lettre, la lettre du Seigneur, pardon. Et là, il lui dit à l'Église, « Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. » On voit que l'Église, elle a supporté des souffrances pour la cause de Jésus. Il y a eu des tribulations pendant ces 35 ans. Il y a eu la persécution des Romains. Mais l'Église, face à ça, ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée au premier obstacle. Elle a persévéré dans la souffrance. Elle a résisté malgré les adversités. Quelle Église ! Quelle Église ! Hein, de nombreuses qualités. Et le Seigneur les a vues, ces qualités. Et il le dit. Nous, lorsqu'on lit ça, on se dit, mais c'est une église quasi parfaite. On cherche les rides et les taches, quoi. On n'en voit pas. On aimerait être à son niveau de consécration. Hein ? Ils ne sont pas loin du but, là. Mais voilà que Jésus émet un reproche. Un reproche avertissement. C'est donc ce fameux titre, Apocalypse 2, verset 4, qui nous dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais Seigneur, tu viens de dire là que c'était une église exemplaire. On a tous à prendre des leçons là. Tu l'as dit, tu l'as souligné. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Pourquoi tu dis ça ? Mais Jésus, s'il reconnaît les choses qui sont bonnes, eh bien, il dit aussi celles qui ne le sont pas. Alors nous, on est un peu dans l'incrédulité, là. Mais la parole de Dieu, 1 Samuel 16, verset 7, nous dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Les œuvres, tout ce qui a été fait. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le Seigneur ne s'arrête pas à l'apparence extérieure qui peut être trompeuse, n'est-ce pas ? Trompeuse pour les hommes, mais pas trompeuse pour lui. Parce que le Seigneur regarde ce que nous sommes à l'intérieur. Et à l'intérieur de nous, il cherche notre premier amour. Ah ! Notre premier amour. Qu'est-ce que c'est que ça, le premier amour ? Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Alors c'est peut-être un peu compliqué à définir vraiment clairement, précisément, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce premier amour, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et pour les autres, qui a été déversé dans nos cœurs lorsqu'on a réellement compris, le jour où on a réellement compris que le Seigneur nous avait aimé le premier en donnant son Fils, Jésus, sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Et lorsqu'on a réellement saisi ça, pas simplement de manière intellectuelle, alors il y a eu ce déversement d'amour, cet amour pour Christ, cet amour fraternel, le deuxième découlant du premier. Il ne peut pas y avoir d'amour fraternel réel s'il n'y a pas l'amour pour Christ d'abord, parce que c'est Christ qui nous donne cette capacité à aimer les autres. 1 Jean 4, verset 10-11 confirme ce que je viens de dire. « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Amen. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu cherche ce premier amour, cet amour-là. Cet amour que l'on a reçu lorsqu'on s'est donné pleinement à Dieu. C'était la motivation de notre engagement pour l'œuvre de Christ, ce premier amour. Et le Seigneur, eh bien, il veut que nous l'aimions comme on l'a aimé au départ. Et c'est cette qualité d'amour qu'il recherche dans le cœur de chacun ce matin, comme il le cherchait dans le cœur des Éphésiens. Et cela nous enseigne que nos œuvres, aussi bonnes soient-elles, qu'une doctrine saine, conforme à la parole, eh bien, ne peuvent nous dispenser de la manifestation du premier amour. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est au contraire cet amour qui doit motiver nos œuvres. Hein ? Ce qui est écrit dans le texte, c'est un peu désagréable encore, parce qu'il est dit « Tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Ce n'est pas comme s'il y avait écrit « Tu as perdu ton premier amour. » Vous savez, j'ai perdu mes clés. Non, mais je n'ai pas fait exprès, hein. Mais là, il est dit, tu as abandonné ton premier amour. Donc, le Seigneur met le doigt sur la responsabilité personnelle. Il y a une responsabilité claire. Ce n'est pas une négligence de la part du croyant, mais comme il a été dit ce matin, un choix. Il y a des choix à faire. Et là, la perte du premier amour, c'est un choix, nous dit la parole. C'est pas, j'ai pas fait exprès. C'est un choix. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette église d'Éphèse pour que le Seigneur fasse ce reproche ? Il le fait à l'église, ça veut dire il le fait à beaucoup de personnes. Hein ? Alors c'est un peu difficile à dire. C'est un constat qui est fait. C'était comme ça. Le Seigneur dit vous avez abandonné votre premier amour. Les hypothèses qu'on peut faire, c'est que il est possible que toutes les épreuves qu'on a énoncées, tous les combats qui ont eu lieu dans cette Église, qui ont été endurés, qui ont été surmontés, eh bien que toutes ces choses-là, elles aient fini par, quelque part, entamer le capital amour des croyants et provoquer un affaiblissement de la foi des uns et des autres. Hein ? Et le reproche qui est fait aux Éphésiens, c'est en fait que tout cela, eh bien, fait montre d'un attiédissement de l'amour pour Dieu. À l'issue de toutes ces épreuves, de tout ce qui s'est passé, au bout de 35 ans, eh bien, il y a une espèce de désengagement. Non pas qu'il n'y ait plus d'amour. Non, il y en a toujours, sinon on ne serait pas là à faire des œuvres. Il y a quand même de l'amour. Mais ce n'est pas celui que demande le Seigneur. Le Seigneur veut le premier amour. Il dit, je veux le premier amour. Tu l'as abandonné. Cet enthousiasme que tu avais lors de tes premières œuvres. Hein ? Alors on est là, mais il n'y a plus assez de manifestations d'amour. Il y a toujours des œuvres, certes, mais Dieu les veut motivées par un amour débordant. Amen. Alors ce qui est rassurant ce matin, c'est que, selon le texte, rien n'est perdu, parce que le Seigneur marche encore au milieu de son Église. Il n'est pas parti. Il est toujours là. Hein ? On sait que notre Seigneur, c'est un Seigneur de la deuxième chance. Hein ? Amen. Alors comment faire pour remettre en évidence ce premier amour dans nos vies ? Eh bien, Apocalypse 2, verset 5 nous dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » C'est-à-dire, fais marcher ta mémoire et rappelle-toi ce que tu faisais avant. Comment tu étais, comment tu agissais, quel était ton enthousiasme pour l'œuvre de Dieu. Souviens-toi de ça, ramène-le devant tes yeux et repens-toi. Étape fondamentale, se repentir. Hein, demander pardon et faire le choix d'abandonner son péché. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Voilà ce que demande le Seigneur. Deuxième chance. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a une deuxième chance, mais si on ne la saisit pas, le Seigneur nous dit, je vais être obligé d'agir, je ne peux pas accepter que mon Église soit dans cet état spirituel. Hein ? Au-delà de tout ce qui est fait, l'intérieur, ça ne va pas. Il faut se repentir, il faut prendre conscience de son péché, il faut le confesser devant Dieu et s'en revenir à nos premières œuvres. Et c'est par le retour aux premières œuvres qu'on va retrouver le premier amour. Se rappeler comment on était, ce qu'on faisait, se remettre dans cet élan, dans cette dynamique, hein, et le premier amour va se manifester. Ce matin, c'est du sérieux. Parce qu'il y a la menace de déplacer le chandelier. Déplacer le chandelier, ça veut dire que, au bout d'un moment, eh bien, le Seigneur, le chandelier, on a dit que c'était le symbole de la parole de Dieu, de la proclamation des paroles de Dieu. L'Église, elle est un chandelier, elle est une lumière, elle est un phare pour l'extérieur, pour la proclamation de la parole de Dieu, pour la proclamation du salut. Eh bien, si nous ne revenons pas les uns et les autres à notre premier amour, je viendrai, dit le Seigneur, et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le Seigneur va prendre le chandelier de son Église et il va le poser ailleurs. Ce qui veut dire que la structure Église, elle va peut-être rester, va peut-être continuer à exister, mais il n'y aura plus l'Esprit dedans. Il n'y aura plus de lumière vers l'extérieur. Le Seigneur va la poser dans une autre Église à côté, peut-être. La lumière, le chandelier. Hein ? Peut-être qu'il y en a qui vont avoir deux chandeliers. Et nous, on n'en aura plus. Hein ? Donc il y a des choses à réfléchir, à penser. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux Églises. Il y a une promesse. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Hein ? Cet arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Hein ? Et auquel on aura droit, le Seigneur, à celui qui va obéir à sa parole, eh bien, il lui assure un avenir éternel avec lui. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Merci parce qu'il est vivant au milieu de nous. Je crois que ce qu'on a entendu ce matin, c'est forcément une interpellation pour chacun. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire « c'est pas pour moi ce matin hein ». À des niveaux différents certainement, mais personne, je crois, peut dire « non, non, c'est pas pour moi hein ». Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.